Vivre FM, l'invité de la rédaction, podcast.
Joseph Chauvanec, bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir sur l'antenne.
Merci de m'accueillir.
De Vivre FM. Je crois que les Français connaissent votre voix, Joseph Chauvanec.
Je ne sais pas. C'est peut-être à Halloween qu'on entend ma voix, non ?
Parce qu'on vous entend chez nos confrères d'Europe 1 toutes les semaines.
Oui.
Et c'est devenu un livre, ça s'appelle Voyage en autistan.
Oui.
Vous êtes autiste et vous habitez un pays particulier ?
Qui s'appelle l'autistan, le pays des gens différents, des gens bizarres ou autistes si vous préférez. Et comme il y a beaucoup de ces personnes-là, 1% de la population qui est concernée par l'autisme avec toutes les familles, etc., eh bien on s'est dit que cela pouvait représenter un pays quelque peu virtuel qu'on peut appeler l'autistan.
Et votre façon de parler, c'est l'accent de ce pays-là ?
Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas l'accent suisse, hein, contrairement à ce que certains croient, hein, parce que les vrais Suisses savent que je n'ai pas l'accent suisse.
Et toutes les semaines, donc, vous chroniquez, c'est l'objet de cette publication chez Plon, vous chroniquez finalement votre vie quotidienne. Vous avez le sentiment que vous avez un regard différent sur le monde ?
Je pense que les personnes différentes ont nécessairement une autre vision du monde, quel que soit le handicap dont elles sont porteuses. Dans le cas de l'autisme, cette différence s'articule autour d'une part des hypersensibilités sensorielles, de la façon de fonctionner différente, mais aussi de cette difficulté de fonctionner dans une société qui a des codes qui ne sont pas nécessairement les vôtres.
Est-ce qu'il y a des codes, par exemple, qui vous paraissent particulièrement absurdes?
Alors pendant très longtemps, je ne savais pas pourquoi il fallait dire bonjour. Après tout, il s'agit d'une convention d'une personne non autiste. Qu'est-ce que cela apporte en termes d'informations nouvelles? Voyez, c'est un exemple tout simple. Mais toute notre vie sociale est faite de codes et de conventions. Hein. Et ensuite, il faudra les apprendre, il faudra les appliquer tant bien que mal. Et cela est particulièrement difficile pour les personnes qui fonctionnent un peu autrement.
Il y a d'autres... parce que tous les jours, vous repérez, vous notez finalement dans la vie quotidienne, que ce soit dans les transports ou bien dans la vie de bureau, la vie de famille, des choses qui vous paraissent bizarres. Et du coup, c'est l'objet de ce livre, vous apportez un regard vraiment très interrogateur aussi sur le monde.
Et sur les voyages, en fait, le livre « Voyage en autistan » propose 44 chapitres qui sont chacun un voyage et une chronique de la radio Europe 1 de l'année précédente. Et donc, à chaque fois, on y voit les interactions entre, d'une part, le monde du handicap et le monde du non-handicap, mais aussi entre différents univers culturels. Parce que quand on est en voyage, la question du handicap se pose autrement.
Voilà. Vous avez le sentiment qu'il y a d'autres sociétés où on vous considère différemment ?
Bien entendu. D'une part, parce que quand vous allez dans une société vraiment lointaine où les gens n'ont pas l'habitude de fréquenter des Occidentaux, ils croient que tous les Occidentaux sont comme vous. Et d'autre part, il y a des sociétés où la personne, même différente, même très âgée ou malade, fait toujours partie de la société.
Par exemple ?
Regardez, je peux raconter une histoire très simple. Le président algérien, Bouteflika, dans la presse française, on se moque régulièrement de lui, en parlant de lui comme une momie, etc. Il y a toutes sortes de phrases très 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 méchantes. Mais quand vous parlez du sujet avec des Algériens, très souvent, ils vous diront leur fierté d'avoir un président âgé et malade. Cela montre à leurs yeux combien la culture algérienne sait donner une place, même à une personne malade, âgée, en difficulté dans son fonctionnement quotidien. Et c'est une différence d'approche. Hein. Et je pense bien sûr que la situation n'est jamais idéale, hein, ici ou là. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre des solutions qui existent en matière d'inclusion, en matière d'emploi, de scolarisation, que sais-je, dans tel ou tel pays. Et c'est peut-être un peu l'une de mes activités préférées de colporter ou de trafiquer des solutions, des idées à travers les frontières. Et cela, en matière du handicap, on ne le fait pas assez. Parfois, il y a des choses qui ont été résolues dans certains lieux il y a longtemps déjà, mais on ne le sait pas forcément.
Il y a un pays où vous vous sentez en autistan ?
Alors, bon,
vous un endroit où vous avez l'impression que les personnes autistes sont mieux compris qu'ailleurs.
Il n'y a pas de pays parfait, hein, c'est évident. Mais néanmoins, selon les cas de figure, selon les sujets qu'on prend en considération, il y a des pays, oui, où très clairement, on vit dans un autre monde. Hein. Parmi mes amis autistes français, il y en a de très très nombreux. J'ai la chance d'avoir de très très nombreux amis avec autisme hein, en France, de toutes sortes de profils, etc. Rarissimes sont ceux qui ont un emploi. Par contre, chez mes amis autistes canadiens ou montréalais, presque tous ont un emploi.
On est avec Joseph Chovanec ce matin. Vous êtes l'auteur de Voyage en autiste, en chronique des carnets du monde sur Europe 1, nos confrères d'Europe 1. Et vous êtes autiste, on dit autiste Asperger ?
Maintenant, on ne dit plus que autisme tout court. Le syndrome d'Asperger a été intégré à l'autisme en général, mais c'est une question de terminologie.
On marque une pause et on reparlera d'autisme dans un instant.
Jusqu'à 8h30, l'invité de la rédaction sur Vivre FM.
Joseph Chovanec est notre invité ce matin à propos de votre livre publié chez Plon, Voyage en autiste. Joseph Chovanec, vous êtes autiste, vous faites partie de ces Français qui sont atteints de ce handicap. Vous avez été chargé d'une mission par la ministre en charge des personnes handicapées sur la question de l'emploi. On en parlait il y a un instant. Vous avez le sentiment qu'on peut faire mieux en matière d'emploi ?
Et on ne peut que faire mieux parce qu'on parle d'une situation catastrophique. On va se le dire très directement. Mais l'une des choses qui nous motive quand même, c'est de voir qu'il y a petit à petit une prise en compte de ce sujet-là. Il était encore impensable, il y a 5 ou 10 ans seulement, que par exemple les pouvoirs publics s'intéressent à la question de l'emploi des gens autistes. C'était inimaginable. Mais maintenant, on voit à quel point l'engagement, par exemple, personnel de Madame la ministre, donc Madame Neuville, est fort hein, en matière d'autisme et en matière d'emploi. Et c'est à ce titre qu'elle a bien voulu me confier une mission sur ce sujet, qui consistera tout simplement à tenter de s'inspirer des bonnes pratiques existantes ou d'en imaginer d'autres pour pouvoir créer un document synthétique sur.
Peut-être qu'on peut prendre votre exemple personnel, votre parcours. Vous avez dit, puisque vous étiez à la Conférence nationale du handicap il y a quelques jours à l'Élysée, vous avez dit à un moment donné, si ma mémoire est bonne, j'étais dans les poubelles de la société.
Tout à fait. Comme peut-être 99%.
Vous auriez pu y rester ?
Évidemment. Mais simplement, je suis le petit chanceux du club. Hein. Il y a eu toujours quelqu'un, ou presque, pour me faire sortir d'une situation qui autrement n'avait pas d'issue. Hein. Vous savez, quand vous êtes sous camisole chimique, que vous avez échoué non seulement à tous les entretiens d'embauche, mais à tous les entretiens pour des stages non rémunérés. Au bout d'un moment, votre sort est scellé, je dirais, hélas, hein, voyez. Donc, je suis un peu une sorte de survivant de la roulette russe, mais hélas, 99 ou presque de mes, % de mes amis autistes n'ont pas cette chance-là.
Alors, juste pour bien préciser votre parcours, aujourd'hui, vous parlez plusieurs langues.
Oui, mais vous savez, vous pouvez avoir tous les diplômes qu'il vous plaira.
C'est ça, vous avez des diplômes en philosophie.
Si vous êtes porteur, par exemple, de certains handicaps, hein, vous serez totalement exclu hein, de la société.
Hein. Alors que, par exemple, les rédacteurs de Wikipédia sont, paraît-il, pour beaucoup des personnes autistes.
Tout à fait. Ah, je parle des administrateurs. J'ai les rédacteurs aussi, mais ils sont anonymes, donc on ne peut pas tout à fait savoir qui écrit quoi. Hein,
c'est-à-dire qu'il y a des compétences qu'on voit, par exemple, sur quelque chose comme Wikipédia, oui. Des personnes autistes qui sont des compétences qu'on dirait spécifiques, qui sont propres parce qu'elles sont autistes, elles ont ces compétences-là. Mais
regardez, qui sont les administrateurs de Wikipédia ? Ce sont des gens non rémunérés, hein, donc qui vivent dans la misère pour la plus grande partie. Pour les administrateurs français, c'est le RSA dans le meilleur des cas, ou presque, hein, voyez, et qui ont pourtant un centre d'intègre passion pour un point particulier. Alors, parmi ceux que j'ai la chance de connaître, il y a par exemple les spécialistes absolus des chevaux, mais qui ne savent pas monter à cheval eux-mêmes.
Ah oui,
etc. Vous voyez, il y a chacun a un peu, par les administrateurs de Wiki, une sorte de centre d'intérêt. Et pour une majorité, hein, ils sont et en porteur d'autisme indiagnostiqué, comme tel pour la plupart. Voyez, et donc c'est un exemple de ces compétences-là que j'aime bien citer parce que tout le monde connaît Wikipédia, mais personne ne sait comment ça se met en place, hein, de voir comment ces compétences-là pourraient être mises à profit de la société dans son ensemble. Parce que mettre à l'écart de tels talents, c'est d'une part scandaleux pour les personnes elles-mêmes, mais surtout pour la société. Vous voyez où je veux en venir.
On a beaucoup dit que la difficulté particulière des personnes autistes, c'était l'interaction sociale. Est-ce que ça explique pas justement, par exemple, les cas qu'on vient de citer, de personnes qui peuvent être très compétentes devant leur ordinateur, finalement toutes seules chez elles, et qu'on a du mal à inclure dans une entreprise?
Pour ne donner qu'un exemple, un des pilier de Wikipédia en français, donc l'une des personnes centrales, je me garde bien de citer son nom, hein, donc qui est une femme avec autisme, elle ne parvient pas à sortir de chez elle pendant la journée parce qu'il y a des gens qui traînent devant la sortie de son immeuble. Et comme elle n'arrive pas ou ne peut pas passer devant ces gens-là, elle doit vivre la nuit. Vous imaginez toutes les conséquences que cela entraîne sur sa vie, etc. Bon. Elle ne travaille pas, vous imaginez la suite.
Est-ce que vous avez le sentiment que, à l'inverse, les entreprises sont prêtes à accueillir des personnes qui ont un profil, une relation aux autres un peu différente?
Oui et non. Alors, le travail qui a été fait pour d'autres handicaps, je pense au handicap moteur ou sensoriel, n'a pas été fait dans le cas de l'autisme ou du handicap invisible. Hein. Donc, en matière d'emploi des personnes autistes, on est dans une situation, mettons, années 50 ou 60 pour les autres.
Mais alors, vous travaillez, vous êtes chroniqueur sur Europe 1. Est-ce qu'il a fallu aménager, je sais pas, votre poste de travail? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises?
Pour vous le dire très simplement, bon, je suis un peu le petit chanceux du club, hein, pour le redire. À chaque fois que j'ai eu du boulot, c'est que quelqu'un, par le fait du prince, m'a donné du boulot. Je suis incapable de passer un entretien d'embauche, hein, et j'ai toujours échoué aux entretiens.
Pourquoi,
d'embauche. Parce qu'à l'entretien d'embauche, on vous évalue sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'emploi en question, et on vous évalue sur des apparences qui ne sont pas, je dirais, le meilleur critère d'évaluation des personnes autistes. Par exemple, je ne suis incapable de faire un nœud de cravate, je ne suis jamais allé chez le coiffeur, je n'ai pas de voiture, j'habite chez mes parents. Voyez, je suis d'ailleurs sans doute visiblement le seul conseiller ministériel à ne jamais être allé chez le coiffeur. Bon, je le dis de façon un peu moqueuse, mais voyez...
Qui sait, on ne sait pas les autres.
Sauf s'il y a des chauves absolus, mais j'en doute. Hein, mais, non, c'est une mauvaise blague. Mais voyez-vous, ce que je veux dire par là, c'est que les personnes autistes sont exclues sur ces petites choses. Prenons un autre exemple. Si vous êtes vraiment une personne très chanceuse, vous passez entre les gouttes, je dirais, ou les mailles du filet, vous réussissez votre entretien d'embauche, ce qui n'arrive presque jamais chez les personnes autistes, mais ensuite vient l'étape fatidique, c'est la visite médicale. Si le médecin du travail apprend que vous êtes autiste, vous êtes éliminé.
On en est là ?
On en est là. Beaucoup de médecins du travail croient que l'autisme est soit une maladie contagieuse, soit un état où la personne entre en crise toutes les 5 minutes et casse tout. On en est là. Que voulez-vous? Dans un état, je dirais, où l'ignorance médiévale, moyenâgeuse règne, les choses sont très compliquées. Et c'est vraiment, on se bat contre... Des décennies d'ignorance crasse accumulées, et cela vaut, je dirais, pour presque tous les handicaps invisibles. Hein. Je pense par exemple à tout cet univers des 10, mais aussi à tout cet univers de la schizophrénie, qui visiblement n'est pas du tout à la mode. Hein,
l'invité de la rédaction de Vivre FM, jusqu'à 8h30.
Joseph Chovanec, merci d'être avec nous sur l'antenne de Vivre FM. Vous êtes l'auteur de Voyage en Autistan. Vous racontez vos voyages un peu partout dans le monde avec votre regard singulier. Vous êtes devenu finalement, Joseph Chovanec, un petit peu le porte-parole des personnes autistes en France aujourd'hui. Vous assumez cette position-là?
Bon, ce n'est pas une question de savoir s'il y a tel ou tel rôle de porte-parole à avoir ou pas. Le point, c'est que tant qu'on peut faire des choses, tant qu'il reste un peu d'énergie, il faut essayer de présenter l'autisme au grand public. Il faut essayer de présenter les compétences des personnes autistes. Et il y a 10 ans, 12 ans à peu près, tout le monde ignorait totalement l'autisme. Quand on faisait un événement sur l'autisme il y a 10 ou 12 ans, dans le meilleur cas de figure, on était 3. Maintenant, vous pouvez, dans le plus petit village de France, placarder des affiches. Ce soir, rencontre autour de l'autisme, vous aurez 200-300 personnes.
Rencontre autour de Joseph Chauvenet. Est-ce qu'il n'y a pas un effet, du coup, de votre personnalité ?
Je dirais, vous savez, nous sommes dans une société où parfois les effets de cirque ou de mode existent. Donc peut-être qu'on peut profiter de ces phénomènes-là pour faire passer des messages plus intéressants.
Est-ce qu'il y a un risque ?
Bien sûr, mais à la rigueur, vous savez, je ne suis pas né pour un saltimbanque dans l'autisme. Et peut-être que un jour, je pourrais prendre ma retraite et m'occuper de plantes et d'horticulture, voyez, ou d'autres
sujets. Faire votre métier, puisque vous êtes diplômé en philosophie.
J'aurais dû être prof de philo à la fac, oui. S'il n'y avait eu les activités militantes dans l'autisme qui sont devenues de plus en plus intenses. Mais que voulez-vous, en France, il y a scandaleusement peu de personnes autistes qui fassent du militantisme. Historiquement, je dirais, on était 2 ou 3, Stéphanie Bonobrier et moi-même. Dernièrement, certaines personnes autistes commencent aussi à prendre la parole, mais ce n'est qu'à tout début. Hein. Aux États-Unis, au Canada, il y en a des centaines de personnes autistes qui prennent la parole. On en est loin encore.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, Joseph Chauvenet, qui fait partie de ceux qui s'en sortent le mieux, et ça cache aussi l'immense forêt de tous ceux qui sont avec des formes d'autisme plus sévères et qui sont en très grande difficulté, et pour lesquels il faut encore un accompagnement, y compris dans des structures spécialisées.
Merci pour la question. Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, je ne m'en sors pas bien du tout. J'ai simplement une surcompétence pour le baratin, acquise à force de m'exercer tous les jours depuis des années. Donc cela crée peut-être une surcompétence très ponctuelle, mais dans les autres domaines de la vie, je suis nullissime en termes de fonctionnement social. Voyez-vous, ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il ne faut pas croire que parce que telle ou telle personne autiste a tel ou tel profil, qu'elle le gardera toute sa vie. Voyez, la différence entre les personnes autistes et la plupart des hommes politiques, c'est que les uns évoluent, les autres pas forcément. Voyez, donc le fait que telle personne autiste ait par exemple un certain nombre de difficultés, cela résulte avant tout des apprentissages ou des non-apprentissages réalisés jusqu'à ce stade. Mais l'avenir est toujours ouvert. Je n'ai jamais rencontré encore de personne autiste qui soit dépourvue de compétences ou jamais rencontré de personne autiste qui soit incapable de progresser ou d'apprendre. Voyez, évidemment, les carences sont parfois terribles parce que la personne a été totalement mise à l'écart dès le plus jeune âge. Mais ça, justement, on doit y remédier.
Le secteur de l'autisme est marqué par des conflits très importants quelquefois.
En France.
En France, oui.
Pas ailleurs.
Ouais. Vous comprenez la colère de certains parents ?
Ah, mais évidemment que je la comprends. Évidemment, je la partage. Hein. Ce sont des histoires absurdes, terribles que l'on entend tous les jours. Hein. Des histoires terribles de mise à l'écart des enfants ou alors où les parents font l'objet de signalements divers. Vous avez des procureurs de la République qui s'exclament en séance. Hein. Il n'y a pas d'autisme, il n'y a que de la maltraitance parentale aujourd'hui encore, en 2016, etc. Vous voyez ? Donc je comprends et partage pleinement la colère des parents à 100%. Tout comme je partage et comprends pleinement la situation de vie très difficile de nombreux adultes autistes qui ont été privés de tout. Hein. Si vous êtes privé d'emploi, de logement, etc., votre qualité de vie sera hélas très faible. Et si j'ose dire aussi, il y a eu de nombreux suicides parmi mes amis autistes. Hein. C'est un sujet dont on parle très peu.
Merci Joseph Chauvenet d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Vivre FM. On rappelle que votre dernier livre, parce qu'il y en a eu d'autres avant, s'appelle « Le voyage en autistan ». C'est publié chez Plon. Merci Joseph Chauvenet.
Merci pour votre accueil. Merci.